북한은 무슨 apprendre à te connaître pour te lui servir. Nous te prions, Seigneur, aujourd'hui c'est le moment d'étude, d'être au milieu de nous, Seigneur. Nous te prions de coder ton inspiration à ton serviteur pour qu'il nous parle de ta part. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je n'ai pas corrigé l'annonce tout à l'heure, vous êtes au courant de toute façon, vous les habitués. Ce n'est plus tout à fait sur les prophètes que notre étude porte aujourd'hui, car nous avons fini de considérer les livres prophétiques de l'Ancien Testament en série. Nous avons même eu une séance pour les questions qui pouvaient rester. C'est du sens de l'histoire selon la Bible que vous m'avez demandé de vous entretenir aujourd'hui. Je signale que mon exposé constitue le deuxième volet, en quelque sorte, d'un ensemble dont la première partie date déjà de plusieurs années. En fait, le sujet m'avait déjà été proposé en 91 et j'ai encore mes notes d'une première étude sur le sens de l'histoire que j'ai donnée le 19 mai 91. Monsieur Sidamon a certainement la cassette dans ses trésors qui, vous le savez, regorgent de toutes les interventions qui ont eu lieu dans notre Église. Il me disait tout à l'heure d'ailleurs qu'il en a eu une autre aussi, appartenant à la même série, sur le mystère d'Israël, donc plus particulière, je ne me rappelais même plus que j'avais donné celle-là. Donc il s'agit pour moi d'une étude qui complète en quelque sorte celle que j'ai faite avec le groupe plus restreint, que certains d'entre vous, vous avez connu, dont vous avez été, au sous-sol en 91. Et pour qu'il n'y ait pas de redites, ou en tout cas pas trop de redites, j'ai essayé de rendre complémentaire, donc différente, l'étude d'aujourd'hui, comparée à celle d'il y a quelques années. J'avais surtout insisté sur les questions de méthode, de façon de faire, sur les grandes options parmi les pensées humaines. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais me concentrer davantage sur le contenu de la réponse biblique à la question « Quel est le sens de l'histoire ?» Ce sera bien sûr très panoramique, vous vous rendez compte, le sujet est immense, mais nous essaierons de fixer les choses de manière claire. Ça tombe bien parce que je pense que cette étude se loge entre les deux séries. La série passée sur les prophètes ont parlé du sens de l'histoire, au moins pour leur siècle, et souvent en allant beaucoup plus loin dans leurs prévisions inspirées. Les prophètes donc ont déjà parlé de notre sujet, et en les étudiant, nous avons déjà ouvert la voie. Et d'autre part, selon les demandes qui me sont parvenues, je pense que nous pourrons aborder par la suite une série sur les questions dernières, comme on les appelle, les fins dernières, sur l'objet de l'espérance chrétienne. À partir du mois d'avril, je pense prendre plusieurs des grands sujets, le retour de Jésus-Christ, les événements qui l'accompagnent, la tribulation, l'Antichrist, puis aussi le sujet du jugement, le sujet du royaume du Seigneur, de l'état final, du châtiment éternel. Donc ces sujets-là nous occuperont, si vous êtes bien d'accord avec ce projet, dans les mois, et encore je pense l'année qui va venir, dans les mois qui viennent et dans l'année qui suivra, l'année de vie ecclésiastique en tout cas. Et puis d'autre part, je pense que le sujet se loge bien si l'on songe à ce que nous ferons au mois de mars. D'après ce qui est prévu, ce sera un institut biblique commun, conduit par Jacques Blocher, sur l'histoire de notre Église, l'histoire du tabernacle. Alors, aujourd'hui, c'est le point de vue du macrocosme, c'est-à-dire le vaste monde, toutes les durées, les millénaires de l'histoire, et puis, au mois de mars, ce sera le microcosme que constitue notre Église, dans la durée somme toute brève par rapport au temps cosmique qu'elle a connu un peu plus d'un siècle, c'est encore bien bref à l'horloge de l'histoire. Donc aujourd'hui, nous avons la vision globale, et puis au mois de mars, tous ensemble avec les autres groupes, nous nous intéressons plus spécialement à ce que le Seigneur a fait dans le temps de notre communauté. Je commence par le motif clé du sens de l'histoire selon la Bible, et puis ensuite je vous indique quels sont les titres des deux autres parties de ce que j'ai préparé, de l'évolution ambiguë de l'histoire, vue selon la Bible, et du ferment de l'espérance. Mais je commence donc par l'espèce de grille de lecture qu'il nous faut pour vraiment nous repérer. Les événements se succèdent, les événements du passé dont les livres d'histoire nous donnent les dates au moins, les événements du présent, qu'est-ce qui est important, comment comprendre, comment les mettre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte. Nous avons besoin de ce qu'on appelle parfois une grille de lecture. Là, on réussit à placer les choses selon les casiers de la grille d'une manière qui fait sens, qui donne quelque chose à comprendre. Ah oui. Ou on pourrait dire encore un schéma organisateur. Dans le fouillis, on s'y perd, on ne sait rien retrouver. Mais si on a un schéma, alors on peut y voir plus clair. Et c'est le sens de notre effort aujourd'hui, demander à la Bible qu'elle nous aide à y voir plus clair dans la multitude des événements, avec une sélection des plus importants. Le motif clé qui nous sert donc de schéma organisateur pour la Bible me semble être un drame en trois actes. Un drame, on pourrait même dire une comédie. Ça a été proposé par certains penseurs, bien que ça paraisse au premier abord un petit peu trop léger et qu'on se dise, oh là là, mais parler de comédie pour la Bible qui est un livre si sérieux, s'il y a un livre sérieux, c'est tout le sérieux de la vie qui est en cause avec la Bible, mais ce n'est pas sérieux de parler de comédie. Mais si en fait, les comédies peuvent être très sérieuses, aller jusqu'au nerf le plus sensible de l'expérience humaine. Ce qui caractérise la comédie, ce n'est pas la légèreté. Souvent, ce sont des choses très dramatiques qui sont en cause dans les comédies mêmes. Des espérances qui s'écroulent, des fois qui sont trahies, des morts. Ça arrive dans les comédies. Ce qui caractérise la comédie, c'est que ça finit bien. La différence, pour les gens qui classent, voyez, les pièces de théâtre, c'est la tragédie, ça finit mal, et la comédie, ça finit bien. Il y a forcément un moment de trouble, un passage d'angoisse, mais ce qui caractérise la comédie, c'est que ce passage n'est pas la dernière affaire, qu'on surmonte le trouble, que la menace est finalement écarté, que l'attaque est repoussée et qu'on aboutit à une solution. Que le dernier mot reste au soulagement. Voilà qui caractérise la comédie, et dans ce sens, on peut dire que la Bible, c'est la divine comédie. Vous savez que le grand écrivain italien Dante a choisi ce titre même pour son œuvre, la Divine Comédie. Mais en fait, il ne s'agit pas du sens de l'histoire, il parle plutôt de l'enfer, du purgatoire. Il n'essaie pas de nous donner le schéma de l'histoire. Mais si on considère l'histoire vue à la lumière de la révélation de la parole de Dieu, je crois qu'on peut dire que c'est la Divine Comédie. Parce qu'en dépit de tout le sang qui coule, en dépit de l'offensive des ténèbres, avec ce point atroce qu'est la croix au centre, c'est la victoire du Seigneur, c'est la réconciliation, la restauration de la justice, qui est le dernier mot de la Bible. C'est la splendeur de ce que le Seigneur établit. Donc, trois actes. trois actes, création. La création, c'est le premier acte. Puis, ce qu'on appelle couramment la chute, mais il ne s'agit pas simplement de tomber de haut, hein. C'est plutôt la perversion, c'est beaucoup plus subtil que simplement tomber de haut. Le mot de chute n'est pas employé d'ailleurs dans la Bible pour ce qu'a fait Adam au chapitre 3 de la Genèse. C'est plutôt le mot de désobéissance qui est mis en relief. Ou encore le mot de corruption qui est tout à fait caractéristique. Premier acte, la création, et Dieu vit que tout était très bon. Deuxième acte, la rébellion de l'humanité à l'instigation du tentateur, et du coup la corruption, on pourrait dire en employant la formule « bonjour les dégâts », tous les dégâts qui gâtent la création de Dieu. Et puis, troisième acte, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre réparatrice que Dieu entame, l'œuvre qui va restaurer et même faire bien au-delà. Ce sont les trois grands actes que nous avons dans la perspective biblique qui constituent le schéma grâce auquel nous allons nous y retrouver dans les événements, où nous allons pouvoir les analyser et les interpréter correctement. Et il faut bien comprendre que ces actes se succèdent, c'est vrai, dans le temps, mais que, en même temps, leurs effets se superposent, et même plus qu'ils ne se superposent, ils s'interpénètrent. La création, c'est bien sûr ce qui est au commencement, mais la création est ensuite le socle sur lequel tout le reste se bâtit. La création n'est pas abrogée, nous allons y revenir, ses effets subsiste, c'est-à-dire l'existence même de créatures. C'est pourquoi on parle aussi de la création pour l'ensemble des choses créées. On dit la création, c'est l'acte de Dieu, mais c'est aussi ce qui résulte de l'acte de Dieu et qui demeure, la création. Donc vous avez ce premier acte, et pour pouvoir bien percevoir la réalité, il faudra toujours penser à la réalité comme créée par Dieu, comme fruit de ce premier acte. Puis il y a ensuite la rébellion, la chute. Alors si c'est un événement, mais un événement qui continue ensuite à proliférer. Et puis, troisième acte, l'action divine de restauration, et elle aussi, elle se surajoute, elle interfère avec ce qui a été créé et gâté par la rébellion. Donc, trois actes, c'est bien vrai que les choses se succèdent, mais ensuite, s'entremêlent. Alors, il y a un texte du Nouveau Testament qui me semble bien les présenter et que je vais lire, pas encore fait la lecture que je fais habituellement pour introduire, je la fais maintenant, que je vais lire pour que nous repérions bien ces trois grands actes. C'est le passage de l'Épître aux Romains, le grand traité de doctrine que l'apôtre Paul a laissé, au chapitre 8, et je lis les versets 19 à 25. Oh, je peux peut-être lire déjà le verset 18, puisqu'il il a un rapport moins direct avec notre sujet, mais quand même. Donc 18 à 25. J'estime, dit l'apôtre, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors je ne sais pas si vous avez bien repéré les trois actes dans ce passage, mais ils y sont. Vous avez la création. La création est mentionnée plusieurs fois. La création attend avec un ardent désir. La création a été soumise à la vanité. Au verset 22 encore, la création tout entière soupire et souffre. L'œuvre de création qui est l'œuvre première n'a pas été simplement annulée, balayée, réduite à zéro par la suite. Le monde reste création de Dieu. Et ça implique évidemment pas mal de choses. L'acte créateur a eu un fruit qui, à bien des égards, demeure. C'est d'ailleurs pour ça que la création souffre et qu'elle soupire. Si elle n'était plus du tout la création de Dieu, si tout ce qui se faisait d'elle, la création de Dieu, avait été effacé d'un coup par le péché, par la révolte, alors il n'y aurait pas de soupir. Elle serait simplement mauvaise, de la pure malignité, et elle ne soupirerait pas après autre chose. Elle ne ressentirait pas ce qu'elle ressent effectivement. Donc il y a la création, nous l'avons vu. Il y a ensuite ce qui correspond au deuxième acte et qui est évoqué à l'aide de deux expressions. Elle a été soumise à la vanité et elle est dans la servitude de la corruption. Vous voyez, ce sont les deux expressions qu'emploie notre texte. Alors il s'agit de comprendre ce que ces deux expressions signifient. C'est pas tout à fait notre langage de tous les jours. Soumission à la vanité. La vanité, c'est le mot de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. La vanité, c'est l'inconsistance, c'est l'échec, la frustration. Certains ont traduit ici la frustration. Sous le soleil, finalement, tout revient à l'absurde. La mort a le dernier mot. Même quand on se donne des efforts, quand on se donne de la peine, on fait des efforts. À quoi bon? Sous le soleil, vanité des vanités, tout est vanité. La création, vue dans sa manière de fonctionner, depuis la rébellion humaine, semble avortée sur du non-sens, semble vraiment conduire toutes les créatures au néant, puisque c'est la mort qui a le dernier mot. C'est ça, cette soumission à la vanité. C'est tout spécialement par rapport à l'homme que cela est dit, car le monde est pris en compte ici, comme d'ailleurs au début de la Genèse, par rapport à l'homme. Dieu fait le monde pour l'homme, et il établit l'homme en autorité sur cette création pour qu'il la soigne d'ailleurs. Et donc c'est par rapport à l'homme que la création est soumise à la vanité. Et puis pire encore peut-être, elle est asservie à la corruption, à la pourriture. Tout se pourrit, et la pourriture, ça sent mauvais en plus. C'est pas seulement cette inconsistance, rien finalement ne dure, aucune valeur n'est stable, et on peut, à aucune d'elles, on ne peut vraiment accrocher son espérance, mais même ça se fait d'une manière nauséabonde. Servitude de la corruption, la corruption attaque tous les aspects de ce qui est là. C'est encore une pomme, mais une pomme pourrie. C'est encore une pomme, mais ce n'est plus bon à manger. Et c'est de diverses manières que la corruption agit. Elle agit sur les formes, elle agit sur les contenus. Voilà ce qui caractérise le deuxième acte dans notre texte ici. On peut souligner que dans le texte, il nous est dit que la création, indépendamment donc de l'homme, a été soumise à cette vanité, non de son gré, pas de son gré. c'est parce que c'est à cause de l'homme qu'elle a été soumise à la vanité. À cause de toi, le sol sera maudit, dit Dieu à l'homme au chapitre 3 de la Genèse. Pour l'humanité, hélas, ça a été par son consentement, parce que les humains disent oui aux tentateurs, que la corruption est dans leur vie. Mais même si on relève cette différence, que je suis sûr, l'apôtre Paul aurait été d'accord de ratifier, même si on relève cette différence, quoi qu'on peut dire que même dans le cas de l'homme aussi, il y a un aspect de malheur dont il est victime dans sa rébellion. Il est aussi asservi à la corruption. Sa vie est pourrie. Et bien sûr, à la vanité de la frustration dernière, sous le règne de la mort. Alors, c'est sa faute. Alors que pour le reste de la création, on ne pourrait pas dire c'est la faute des petits oiseaux. Mais n'empêche, pour l'homme aussi, il est victime. Il est sa propre victime, à bien des égards. Mais il est victime. Et Dieu le voit. Et alors, c'est à partir de là que le troisième facteur intervient, car Dieu a pitié. Il a compassion pour cette humanité qui s'est fait mal, qui est dans la servitude de la corruption avec tout le reste de l'univers créé. Et Dieu décide d'introduire un troisième facteur qui est celui de l'espérance, qui est évoqué aussi par divers termes dans le passage. En fait, si on les prend dans l'ordre, les termes sont les suivants. La révélation des fils de Dieu. Après un temps de ténèbres, de brouillard, on se cogne partout. La révélation. La lumière qui brille, le règne de la vérité. Et puis, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption. La libération à l'égard de cet esclavage pour avoir part à la liberté glorieuse. Une liberté qui est toute pénétrée de la gloire de Dieu, qui est le rayonnement de ce que Dieu est lui-même. Et puis encore, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Rédemption, ça dit à peu près autant que libération, parce que la rédemption, c'était l'opération par laquelle un esclave recouvrait la liberté. La rédemption, c'est son rachat qui permet qu'il soit libre. Mais ça dit plus encore quand même. Rédemption suppose qu'un prix a été payé. Le mot de rédemption nous indique de quelle façon l'opération libératrice a pu effectivement se réaliser. Nous allons y revenir. Et puis, il y a le mot adoption. Dans la langue originale du texte, en grec, le mot signifie l'attribution du statut de fils. Il y a le mot fils dedans. C'est être fait fils qu'être adopté. Il pourrait d'ailleurs y avoir des adoptions en fraternité. Du point de vue légal, ce ne serait pas impossible, mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici, mais de l'adoption comme fils et fille de Dieu. Dieu non seulement nous libère de la servitude de la corruption, mais il nous accorde d'être ses fils et ses filles. Voilà la troisième opération qui est en espérance. Nous attendons encore. Il y a une dynamique qui est lancée, mais ce n'est pas encore tout réalisé. Et l'apôtre Paul le souligne très, très, très nettement à la fin du passage. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Et ça veut dire que nous ne pouvons pas le voir encore. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? On l'a, alors on ne l'espère plus, on l'a. Mais Paul dit bien ici, on ne l'a pas encore. Bon, on en a des prémices par l'action de l'Esprit de Dieu. Les prémices, c'était les premiers fruits de la récolte, qui étaient comme le gage de la récolte future en Israël. Alors nous avons les prémices, nous avons déjà le gage. Ce que Dieu nous donne dans notre expérience chrétienne aujourd'hui, c'est un acompte, des prémices de ce qui vient. Mais ce qui vient, nous ne l'avons pas encore. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voyez comment l'apôtre Paul, dans ce passage, souligne les trois grands actes par lesquels nous pouvons interpréter tous les événements, en fait, qui se produisent. C'est la grille par laquelle nous discernons vraiment ce qu'il en est. Dans un événement qui se produit, il y a le socle de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est parce que Dieu a créé qu'existent des créatures pour faire ce qu'elles font. Mais aussi toujours, toujours, l'action corruptrice du péché. Nous ne faisons pas d'illusions. Mais aussi l'œuvre de Dieu dans la libération qui a commencé et qui a pour horizon cette libération entière que nous ne voyons pas encore, mais que nous attendons avec persévérance. Alors ça veut dire, par rapport aux attitudes clés, si nous comparons à ce qui se voit autour de nous, que nous échapperons aussi bien à l'optimisme béat, on fait confiance à la nature. Ah oui, alors on peut être sûr que, avec juste un saupoudrage de crédit en plus pour l'éducation, ça va être parfait. Laissons la nature humaine s'exprimer. Débloquons les désirs des gens et puis ce sera l'harmonie. Voyez. Ça c'est l'optimisme naturaliste qui ignore le deuxième acte, la gravité de la corruption. Pour ça que tant et tant d'illusions d'utopistes, génération après génération, ont été démenties, ont démontré l'assujettissement à la vanité. Parce que les gens ont voulu croire que finalement le mal n'était que superficiel, on ne savait pas tout à fait s'y prendre, et ils n'ont pas tenu compte du deuxième facteur. Mais pas non plus le cynisme de certains. Parfois ceux qui se rendent compte que leur optimisme est démenti par les faits, alors versent, juste à l'inverse, dans ce qu'on appelle le cynisme. Oh, finalement, les gens ne sont que des pourris, tous pourris. Vous connaissez la formule, il n'y a rien à attendre, chacun tire son épingle du jeu, l'homme est un loup pour l'homme, rien de plus. C'est le cynisme, ce n'est pas biblique. La Bible nous atteste que la création est encore là, que l'homme ne cesse pas d'être créature de Dieu, avec des traits qui ont été déterminés en lui par Dieu lui-même. Et ça se voit, et il n'y a pas à le nier, et la doctrine du péché ne nous oblige pas du tout, au contraire, à nier qu'il y ait de bons élans, de la belle générosité, des gens qui se sacrifient d'une manière remarquable, qui aient de l'intelligence. Ça existe aussi comme un effet qui n'est pas aboli de la création de Dieu. Et nous n'avons pas à tomber dans le cynisme de certains ou dans un pessimisme noir. À propos de l'opposition entre l'optimisme excessif souvent et puis le pessimisme qui peut verser du côté cynique, je voudrais simplement vous écrire sur le tableau de papier à deux formules. C'est en anglais, mais plusieurs savent l'anglais, puis je vous explique. Dans une pièce de Shakespeare, on trouve cette exclamation sur l'homme. How like a God. Combien semblable à un Dieu. God, G-O-D, signifie Dieu, n'est-ce pas, en anglais. En un sens, c'est juste, bibliquement. Créé par Dieu, l'homme a été créé en image de Dieu. Et toutes ces beautés qu'on voit dans la vie humaine encore relèvent de cette création de l'homme comme image de Dieu. Mais bien sûr, on peut, à partir de là, déraper, diviniser l'homme, le faire se prendre pour un petit Dieu, et à ce moment-là aussi, verser dans l'optimisme qui est démenti par les faits, comme je viens de l'expliquer. Mais enfin, disons, c'est une première formule. qui a été typique de la pensée de beaucoup. On a dit, au XXe siècle, cette formule est cyniquement renversée. Pensez à Pavlov en particulier, vous avez entendu parler des expériences de Pavlov. Pavlov, lui, il dit en fait, how like a dog. Au lieu de God, vous renversez les lettres, vous avez dog, le chien. Il traite l'homme comme semblable au chien. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot cynique. Le mot cynique vient du mot grec cette fois, chien. Le cynisme, c'est traiter les gens comme des chiens. Et dire en fait, nous ne sommes rien que des chiens. Et cela, la Bible. Le combat, c'est pas du tout le vrai réalisme. Parce que le vrai réalisme relève aussi que l'homme demeure la créature de Dieu. Et puis par rapport à l'accent sur l'espérance, mais l'espérance qu'on ne voit pas encore, dont il y a seulement des prémices, je pense que deux attitudes aussi sont exclues. Celle de l'enthousiasme qui fait comme si ce qui est promis pour plus tard était déjà là. On s'excite tellement, on veut ignorer que nous sommes encore dans une situation où bah oui, la création tout entière, et nous aussi, nous souffrons, nous soupirons, nous n'avons pas encore ce qui nous est promis. Déjà dans le Nouveau Testament, Paul devait combattre des gens qui disaient que la résurrection était déjà arrivée, qui faisaient comme si le temps de l'attente ne devait plus compter. Et en écrivant aux Corinthiens, ils se moquent d'eux, Paul, en disant « Oh oui, déjà vous régnez, vous, déjà !» Et oui, nous les apôtres, nous sommes comme les balayures du monde, hein. Mais vous, alors vous, c'est déjà la gloire pour vous. Ils se moquent d'eux parce que leur piété était une piété triomphaliste qui ignorait le pas encore de ce texte. Mais en même temps, il ne s'agit pas non plus d'abandonner l'espérance et d'ignorer la valeur, la saveur des prémices qui nous sont données dès maintenant. Vous voyez comment cette grille de lecture fondamentale permet déjà de définir les attitudes clés face à l'histoire, au cours des événements qui nous touchent. Alors maintenant, il faut préciser encore un peu les choses, j'ai annoncé deux autres sections. D'abord, il faut noter que ces trois facteurs jouent dans la durée, et de cela je n'ai pratiquement pas parlé encore. Il y a un déploiement dans le temps, c'est pas juste les trois actes, et puis c'est tout, et puis une situation statique. En fait, l'histoire comporte une évolution, on pourrait dire aussi un progrès ou un développement. J'ai éliminé le mot progrès dans mon sous-titre, parce que pour nous en général un progrès c'est forcément un progrès vers le mieux, c'est une amélioration. En général, en tout cas, on pense amélioration lorsque l'on dit progrès. Or justement, le progrès qui est en cause dans l'histoire humaine, à la lumière de la Bible, c'est un progrès ambigu, qui est bon par certains côtés et mauvais d'autres côtés. Et il faut bien voir ça pour l'apprécier et l'interpréter. Selon le premier acte, l'histoire humaine, c'est le déroulement du progrès dans l'accomplissement de ce que Genèse 1 a défini. Genèse 1, dans le cadre de la création, dit à l'homme et à la femme que Dieu a créé, croissez et multipliez et soumettez la terre. Ce qui a été appelé le mandat culturel. Parce que soumettre la terre, cela veut dire en prendre connaissance, en prendre possession, élaborer tout ce qu'on appelle la culture. Au sens le plus littéral de l'agriculture, et au sens plus général des biens de la culture. Dieu a mis en l'homme à la création des facultés, du potentiel. Mais ça ne s'est pas réalisé d'un coup. Précisément, Dieu a prévu, comme Genèse 1 l'indique très clairement, que dans la durée, d'une manière donc évolutive qui se développe, donc ces facultés se réalisent. Et c'est bien ce qu'on voit, c'est un des fils directeurs de l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est l'histoire d'un certain progrès. Par l'actualisation de tout ce qui était en quelque sorte virtuel, mais déposé par Dieu, dans l'humanité de l'origine. On le voit le plus simplement et le plus clairement lorsque l'on considère les techniques. Si vous voulez, la culture au sens élémentaire. Labourer le sol, soigner les arbres, etc. Du fait du caractère cumulatif de l'expérience humaine, quelqu'un trouve un bon outil, ben il le passe à son fils, qui va en imaginer un autre. Les inventions se succèdent, deviennent un patrimoine de l'humanité, de telle sorte que la maîtrise de l'homme sur cet environnement s'accroît sans cesse. Il y a un mouvement continu qui est un fil directeur de l'histoire humaine. Vous avez une évolution dans ce sens. Évolution des sciences avec celle des techniques. Les deux sont étroitement liés. Mais quand quelqu'un a découvert quelque chose, il l'enseigne à la génération d'après. Et ainsi, le corps des connaissances humaines augmente sans cesse. Et je crois qu'on dit qu'il y a aujourd'hui autant de savants vivants sur la face de la Terre que le total de tous ceux qui ont jamais existé dans les générations d'avant. La croissance de cet aspect de l'existence humaine, qui est la prise de connaissances scientifiques du monde. Je pense qu'on pouvons admettre qu'il n'y a même pas seulement progrès par accumulation dans les techniques et les sciences, ce qui est évident, mais que même quant aux formes de pensée, quant à la réflexion, quant à la sensibilité, il y a aussi un certain progrès que nous avons à reconnaître. Les œuvres des grands artistes enrichissent réellement le patrimoine de l'humanité. Nous ne pouvons pas le nier, me semble-t-il. Et donc nous sommes plus riches, nous, que ceux qui sont venus 1000 ans avant nous. Nous avons le bénéfice de Michel-Ange, de Mozart, ils n'avaient pas il y a 1000 ans. Et ça fait partie de ces biens culturels qui sont en augmentation constante. Et en ce sens-là, on peut accepter l'idée d'un philosophe français qui s'appelait Panjvig, qui considérait que c'était le progrès de la conscience qui était le fil directeur de l'histoire de l'humanité. L'homme toujours plus conscient de lui-même, des enjeux, des conséquences, une conscience toujours plus riche d'informations entraînées à des distinctions et à des précisions toujours plus grandes. Je pense que ce n'est pas à nier. Mais quand on emploie le mot conscience, alors précisément apparaît la nécessité de considérer le progrès selon le deuxième acte aussi. Vous savez que le mot conscience en français peut avoir deux sens. Les Allemands ou les Anglais ont deux mots différents, mais en français, c'est peut-être la conscience de soi, des choses, ou ce peut être la conscience morale, le sens moral, selon lequel le bien et le mal sont discernés. Et quand même, si la conscience là est vigilante, suivie jusqu'au moins jusqu'à un certain point, il y a conscience et conscience. S'il y a un progrès de la conscience au sens de la clarté dans la connaissance de soi et des enjeux, hélas, on ne peut guère parler de progrès de la conscience en ce qui concerne le sens moral. Car si l'homme progresse effectivement par ses techniques, son savoir, de grandes œuvres d'art, etc., tout est aussitôt corrompu selon que l'humanité est asservie à la corruption. par sa faute, parce qu'elle s'est coupée de Dieu, parce qu'elle ne veut pas du Seigneur, parce que l'humanité ne veut pas du Seigneur, tous ces acquis qui sont beaux et bons en eux-mêmes, puisque ce sont des fruits de la création, se trouvent immédiatement atteints par la pourriture. Alors c'est varié, ça prend plus ou moins de temps, il y a une tâche, c'est pas tout le fruit à tout moment, mais la pourriture atteint tout. Et si on considère les choses d'un point de vue moral et spirituel, je crois que grosso modo, on doit dire que le progrès est plutôt un progrès vers le pire. Que vraiment, il n'y a pas eu de siècle où la barbarie a atteint le raffinement, l'extension quantitative, mais aussi la méchanceté abominable du point de vue qualitatif de notre siècle. Auschwitz et les autres camps d'extermination, la prétendue solution finale mise en œuvre par le nazisme, mais c'est vrai que ça n'a pas eu de précédent à cette échelle, de cette façon. Penser que c'était le peuple qui pouvait se considérer, les Français sont toujours un peu les rivaux, mais le plus cultivé de la terre. C'est précisément le peuple de Jean-Sébastien Bach et de Mozart, le peuple de Goethe, des grands philosophes, Kant, Hegel. Ce peuple-là, raffiné, musicien, scientifique, tête du progrès scientifique, le peuple allemand, qui s'est laissé entraîner par une bande d'aventuriers, d'ailleurs manipulés par les forces occultes, hein, c'est sûr. Mais s'est laissé entraîner quand même, ce peuple-là, jusqu'à programmer avec une efficacité bureaucratique et technologique sans précédent l'extermination de millions et de millions d'êtres humains, sans raison aucune, simplement parce qu'ils étaient juifs. C'est fou, ça ne s'est jamais vu à ce point-là, comme ça, avant notre siècle. Alors là, c'est l'illustration, me semble-t-il, de ce pouvoir de perversion, de pourriture que la rébellion humaine possède sur le progrès lui-même. Et c'est bien pour ça que, bibliquement, nous ne pouvons pas être très optimistes quant au monde laissé à ses ressources, selon les deux premiers actes, que c'est un antichrist qui est annoncé. Alors nous essaierons d'en reparler lorsque nous toucherons au point de la doctrine des choses dernières, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Mais je crois que la Bible nous le dit à l'avance, que le progrès que fait l'homme lui permet d'être d'autant plus pécheur. Il y a un homme politique anglais, je crois, qui a dit une formule qu'on répète assez souvent, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc c'est Lord Acton qui a dit ça. Et ça semble correspondre à l'expérience, hein, le pouvoir corrompt. Pas besoin de chercher beaucoup dans les journaux pour en trouver des illustrations ces temps-ci. Mais en fait, la formule n'est pas tout à fait juste. C'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est plutôt le cœur de l'homme qui est corrompu. Et quand il a le pouvoir, alors il en profite. Voilà la vision biblique. Et moi je forge une formule, comme ça, bien brève, pour remplacer au fond celle que je viens de citer. L'homme pêche tant qu'il peut. Voilà le drame. L'homme pêche tant qu'il peut. Alors, quand il est tout faible dans la forêt vierge avec peu de moyens, il pêche déjà. Mais il peut peu. Et puis plus son progrès se développe, plus il avance. Et sur tous les plans, le plan culturel aussi, plus son péché peut prendre de l'ampleur et se raffiner. Alors j'ai évoqué Auschwitz, mais je pense que je pourrais aussi évoquer à propos de ce progrès dans la conscience de soi, la finesse, les acrobaties intellectuelles. Mais ces grands philosophes de notre temps, en particulier français, hein, ils sont suivis dans d'autres pays, mais qui sont vraiment des philosophes de pourriture, Et on pensait que Sartre avait été jusqu'au bout, et je peux vous assurer qu'il y a une école dite postmoderne où c'est pire que Sartre aujourd'hui. Oui. Voilà l'illustration de cette action évolutive du deuxième facteur. Mais heureusement, il y a le troisième facteur aussi, qui est un facteur qui, l'opération rédemptrice, un moment clé, c'est le moment de la croix. Un moment unique, c'est une fois pour toutes, dit la Bible, que Dieu a résolu le problème que posait la rébellion de l'humanité avec la corruption qui s'ensuit. Mais quant aux effets de cette cause, Jésus là a été la cause d'un salut éternel de la restauration. Mais quant aux effets de cette cause, nous retrouvons l'évolution, l'étalement dans la durée. Quant à l'opération qui nous sauve, c'est en un seul moment, un seul jour. Et la prophétie l'avait dit, j'effacerai toute l'iniquité du pays en un seul jour. Vous vous rappelez, nous avons vu ce texte dans Zacharie 3. Mais quant aux effets, quant à la restauration de l'œuvre abîmée par la corruption, quant à sa recréation en fait, parce qu'il faut la renouveler radicalement, alors ça s'étale dans la durée. Nous avons une longue durée de l'appropriation de l'œuvre de la croix, c'est la mission même du Saint-Esprit, qui se déroule dans l'histoire de l'Église. L'Église, au fond, c'est le théâtre et le fruit du déploiement de l'efficacité de l'œuvre de la croix, qui est inséparable de la résurrection. Mais la Bible nous apprend que cette efficacité, elle a déjà opéré avant, par avance, comme Dieu savait ce qu'il allait faire, par Jésus-Christ. Il a déjà, à l'avance, fait bénéficier ses élus des effets de l'œuvre du Christ. Il les a déjà restaurés, régénérés et pardonnés en fonction de l'œuvre du Christ, à l'avance. De telle sorte que nous avons une continuité. L'œuvre de rédemption est une œuvre qui commence de façon germinale, un germe. C'est même un titre donné à Jésus, en fait, le germe, dans Jérémie 23 par exemple, et qui, peu à peu, grandit, remplit tout l'espace. Jésus aussi a employé souvent cette image de la semence qui germe et qui porte son fruit jusqu'à l'immensité d'une moisson, vous voyez. Alors, cette histoire peut se raconter de façon diverse, mais je pense qu'une manière particulièrement importante dans la Bible de raconter l'histoire de cette efficacité de la croix tout au long, c'est de raconter l'histoire du peuple de Dieu. Car le peuple de Dieu est constitué par le déploiement de l'efficacité de l'œuvre de la croix, avant et après la venue de Jésus-Christ. Ça commence avec l'histoire personnelle d'un certain nombre d'hommes. Ils sont comme les racines d'un arbre. Abel, Seth, Noé, puis Abraham et les autres patriarches. Et à partir du petit-fils d'Abraham, Jacob, c'est un arbre. Un arbre qui s'élève, l'arbre du peuple de Dieu, qui a pour racine les patriarches. Et on suit ce développement, cette croissance de l'arbre au long de l'Ancien Testament. Et puis arrive le moment décisif de la croix, et vous rappelez ce qui se passe. Certaines des branches dans l'arbre reconnaissent, oui, que c'était l'événement annoncé, et que celui qui meurt sur la croix, c'est le Sauveur qui avait été promis. Et il bénéficie alors de la plénitude de la bénédiction donnée par le Seigneur. Mais certains refusent. Et du coup, ces branches doivent être coupées de l'arbre. Et Dieu, qui a pitié d'autres encore, greffe des branches d'un autre arbre dans cet arbre de son peuple. Greffe des branches qui n'étaient pas, donc naturellement, de cet arbre, mais qui, par la grâce de Dieu, en deviennent partie à leur tour et bénéficient de la sève, de la vie. Ce que la Bible nous apprend, c'est que Dieu a un dessein pour ces branches coupées. Il va les regreffer avant d'achever, de boucler son plan en quelque sorte. Il va les regreffer dans l'arbre. Ce que je vous fais au tableau comme petit dessin, avec mes possibilités artistiques très limitées, c'est Romains 11, c'est le 11e chapitre de l'épître aux Romains. L'arbre, c'est Paul qui en parle, il l'appelle olivier, c'est l'olivier, symbole du peuple de Dieu, déjà dans certains passages prophétiques d'ailleurs. Les racines, ce sont les patriarches, dit-il, il y a le tronc, Israël. Les branches coupées, ce sont les Juifs qui, au moment de la venue de Jésus et dans les siècles qui ont suivi, ont refusé de le reconnaître et donc ont été coupés de l'arbre. L'arbre qui continue avec les branches nouvelles c'est nous, qui venons des nations, non les non-Juifs, mais qui sommes insérés dans le peuple de Dieu par sa grâce. Nous continuons l'olivier, nous sommes l'Israël de Dieu et ce que l'apôtre Paul nous annonce, c'est que Dieu va regreffer, il y aura une grande conversion des Israélites selon la chair, avant le retour du Seigneur, qui va permettre à cet arbre d'être vraiment complet au moment où le Seigneur Jésus reviendra. Voilà la vision de l'histoire qui nous est suggérée. Alors nous reviendrons sur les épisodes de la fin, puisque nous parlerons de ces sujets dans les mois qui vont venir. Il reste maintenant, j'ai pas utilisé toute mon heure tout à fait, mais il reste 3 ou 4 minutes pour des questions, si vous avez des questions. Oui, Eric, monsieur Patin.
Vous avez parlé de la progression, je dirais, du mandat culturel de l'homme, aussi de la progression de la qualité du mal. Alors, est-ce que le mal progresse en quantité et en intensité seulement?
Oui, oui. J'ai voulu affirmer donc aussi une corruption plus grande en qualité, pas seulement en quantité, l'échelle, le nombre des hommes massacrés par exemple, mais dans la malignité même, parce qu'il me semble que ces possibilités accrues au plan intellectuel par exemple permettent d'aller plus loin dans le mensonge. Mais je pense que cet avis que j'ai serait difficile à prouver formellement. Il me semble que le sujet de l'Antichrist est le sujet clé dans le Nouveau Testament à cet égard. C'est pour ça que j'y ai fait une brève référence. Nous pourrons y revenir. Dès maintenant, j'annonce un peu ce qui me semble caractéristique de l'Antichrist et de l'esprit du mystère d'iniquité Antichrist qui agit déjà. Je n'ai pas dit dans l'exposé, je l'expliquerai davantage plus tard. Ce qui caractérise l'Antichrist, c'est qu'il singe le Christ, qu'il vient après le Christ, qu'il utilise non seulement le progrès des techniques, des sciences, de la philosophie, etc., mais qu'il utilise même la nouveauté chrétienne pour en faire un travesti, une singerie maligne. Mais c'est donc un progrès dans le mal, qualitativement, qui est épouvantable. Et c'est ça ce qui caractérise donc l'antichristianisme. Mais ça, j'essaierai d'expliquer un peu davantage. Mais c'est bien la thèse que j'ai voulu défendre, qu'il n'y a pas seulement un accroissement quantitatif. Oui, mademoiselle.
Alors,
Alors, la question, donc, concerne la possibilité de voir un progrès spirituel aussi, et en pensant aux effets de la réforme et la diffusion de la Bible imprimée, par exemple. Alors, cela me conduit, la réponse que je dois donner me conduit à souligner un point que j'ai passé, en fait, parce que j'ai voulu rester dans mon temps. Le progrès que j'ai évoqué est un progrès, grosso modo, à voir globalement comme tel, mais il ne faut pas négliger les tours et détours de cette histoire. C'est très très globalement qu'on peut dire il y a un progrès des techniques, des sciences, etc. et du mal en intensité et en qualité et en extension. Mais en fait, quand on a l'histoire, on voit qu'il y a des retours, qu'il y a quand même des périodes plus privilégiées. Même pour les sciences et les techniques, il y a d'ailleurs des siècles de barbarie. Après l'Empire romain raffiné, vous avez ces hordes de barbares, ils ne savaient presque plus rien. On a sauvé des bribes du savoir de l'Antiquité. Donc même pour ça, c'est pas continu. C'est pas une progression linéaire. Et donc en plus, quand il y a l'interférence des actes restaurateurs de Dieu dans son histoire de la rédemption, et la réforme en fait partie, je pense qu'il y a effectivement des oscillations, des complications, si vous voulez, au schéma. C'est donc globalement que je dis qu'il semble y avoir progrès à la lumière de la Bible. Voilà, merci bien pour votre attention. Et donc, en principe, sur le retour de Jésus-Christ au mois d'avril.